Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 4 avril 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran se dit favorable à s'entretenir avec l'Arabie saoudite tout en exigeant de ce pays de changer de comportement. La résistance yéménite a visé de nouveau la base du roi Khaled à Khamis Mouchat. Les forces américaines continuent de piller les richesses de Syrie. L'Irak proteste auprès d'Ankara après un déplacement d'un ministre turc. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que l'Iran était prêt à s'entretenir avec l'Arabie saoudite à quelque niveau que ce soit, estimant que si le changement de rhétorique de l'Arabie saoudite n'entraîne pas un changement de comportement, cela n'aura pas de résultat concret. Saïd Khatibzadeh répondait aux dernières déclarations du prince héritier de Saoudien Mohammed Ben Salman qui, lors d'une interview diffusée par les médias saoudiens, a déclaré que le régime saoudien aspirait à établir une relation bonne avec l'Iran en tant que pays voisin. Mohammed Ben Salman avait également expliqué « Nous ne voulons pas que la situation de l'Iran soit difficile. Au contraire, nous voulons un Iran prospère. Nous avons des intérêts en lui et avons des intérêts en Arabie saoudite pour pousser le monde et la région à prospérer. » La résistance yéménite a visé de nouveau la base du roi Khaled. Le régime saoudien ne cesse de recevoir des coups durs de la part de la résistance des yéménites. D'une part, il a échoué sur le front de guerre à Marib, et de l'autre, ses cibles vitales ont été visées par les missiles et les drones appartenant à la résistance yéménite. Le dernier coup en date est la frappe au drone contre la base aérienne du roi Khaled. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yassari, a déclaré dans un communiqué que la base aérienne du roi Khaled à Khamis Mouchait et l'aéroport de Najran dans le sud de l'Arabie saoudite avaient été visés par 4 drones de type Qasef-K2 et deux missiles balistiques Badr. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Les forces américaines continuent de piller les céréales syriennes avec l'aide des FTS. Les forces américaines poursuivent leurs opérations de pillage des ressources syriennes de pétrole, de gaz et de céréales avec l'aide des FTS. Selon l'agence syrienne Sana, citant des sources locales, les forces américaines ont sorti un nouveau convoi de 10 camions chargés de céréales syriennes volées des silos de Tal Alo dans la région d'Al-Yarouya dans la province de Qamishli dans le gouvernorat de Hasaké dans le nord-est de la Syrie à travers le passage illégal d'Al-Walid avec l'Irak. Et ce, avec la contribution des FTS. Avec l'aide de la coalition internationale conduite par les États-Unis, ces milices ont occupé cette zone en 2017 après en avoir délogé Daesh, dont les revenus pétroliers s'élevaient à environ 40 millions de dollars par mois, selon les estimations dues à Pentagone en 2015. L'Irak proteste auprès d'Ankara après un déplacement d'un ministre turc. Après une visite du ministre turc de la Défense nationale dans le nord de l'Irak, le ministère irakien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires turc pour exprimer son indignation. Le chargé d'affaires de la Turquie à Bagdad a été convoqué au ministère irakien des Affaires étrangères où il s'est fait de remettre une note de protestation sur les récentes actions d'Ankara dans les provinces septentrionales irakiennes, a annoncé la diplomatie irakienne. Le gouvernement irakien exprime son profond mécontentement et condamne l'arrivée du ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, sur le territoire irakien sans approbation préalable des autorités du pays et sa rencontre avec les forces turques présentes illégalement dans cette région, a indiqué le ministère irakien des Affaires étrangères dans un communiqué. RDC, le président décrète l'état de siège dans deux provinces confrontées à la violence. Le président de la République démocratique du Congo, RDC, Félix Tshisekedi, a annoncé c'était lundi soir sa décision de remplacer les autorités civiles par des militaires et des policiers dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, situées dans le nord-est du pays, où l'état de siège entrera en vigueur jeudi pour faire face à l'insécurité croissante dans cette région. L'état de siège dans les deux provinces débute jeudi pour une durée de 30 jours, indique l'ordonnance présidentielle lue lundi par le porte-parole du président congolais. Pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu, celles des entités décentralisées et des concentrés des dites provinces seront remplacés par les officiers des forces armées de la RDC et ou de la police nationale congolaise désignés à cet effet, note l'ordonnance. Burkina Faso, plus d'une dizaine de civils est tué dans une attaque dans l'est du pays, selon un officiel. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés contre le hameau agricole de Koudaïel dans la région de l'est du Burkina Faso. Le bilan provisoire fait état de deux volontaires pour la défense de la patrie tombés, en plus d'une dizaine de civils tués, de nombreux blessés ainsi que de plusieurs concessions et greniers incendiés, a indiqué dans un communiqué le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Saïdou Sanou. Les premières contaminations par variant indien repérées au Maroc et en Algérie, les premiers cas de contamination par le variant indien du coronavirus ont été détectés au Maroc et en Algérie, ont fait savoir les autorités sanitaires de ces deux pays maghrébins. Les autorités de santé marocaines et algériennes ont annoncé ce lundi les premières contaminations à la souche indienne du coronavirus. Deux cas confirmés d'infection au variant ont notamment été détectés à Casablanca, la plus grande ville du Maroc. Et 6 ont été repérés dans la wilaya de Tipaza, dans le nord de l'Algérie. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. On va vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La résistance yéménite multiplie ses opérations de représailles contre Riyad, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le régime saoudien ne cesse de recevoir des coups durs de la part de la résistance yéménite. Il a échoué sur les fronts de guerre à Marib et ses cibles vitales ont été visées par les missiles et les drones appartenant à la résistance yéménite. Le dernier coup en date est la frappe de drones contre la base aérienne du roi Khaled dimanche 2 mai. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a déclaré dans un communiqué que la base aérienne du roi Khaled al-Khamis Mouchaït et l'aéroport de Najran dans le sud de l'Arabie avaient été visés par 4 drones de type Qassem-K2 et 2 missiles balistiques Badr. Lors de l'opération militaire contre la base aérienne du roi Khaled, des coups durs ont été portés à la base aérienne saoudienne et cette opération est une réponse légale aux multiples agressions de la coalition d'agression des Saoudiens contre le Yémen ainsi qu'au blocus économique contre ce pays, a précisé le général Sari à la télévision Al-Masira. La base aérienne du roi Khaled, qui se trouve à seulement 100 km de la frontière saoudienne avec le Yémen, a fait l'objet de plus de 20 frappes aériennes, dont la dernière en date remonte à ce dimanche. Mais pourquoi cette base est-elle régulièrement frappée? Loin de se borner à une démonstration de force, les attaques d'Ansar Allah menées quasi quotidiennement par des drones de Qassem-K2 contre Khamis Mouchaït témoigne de la volonté de Sana de désactiver la plateforme des chasseurs saoudiens pour éliminer l'obstacle qui les empêche de libérer le peuple du Yémen. Un examen rétrospectif des attaques d'Ansar Allah montre que ce dernier s'est totalement abstenu d'utiliser des missiles balistiques pour frapper la base du roi Khaled en raison du déploiement des systèmes antimissiles américains sur la base aérienne. Les combattants yéménites ont donc privilégié le déploiement des drones capables de toucher la cible avec une grande précision, bien que la coalition d'agression saoudienne prétende que les opérations ont été contrecarrées. Disposant de plusieurs pistes pour les chasseurs F-15 et Sokhoï, la base aérienne du roi Khaled abritait au cours des premières années de la guerre contre le Yémen des officiers américains qui fournissaient une assistance logistique et de renseignement à la coalition saoudienne tout en augmentant le nombre d'avions de chasse. Dissimulant la nature de ses cibles dans cette récente déclaration, Ansar Allah se réfère désormais uniquement à la prise pour cible des bases sensibles de l'Arabie saoudite, ce qui mène à croire que la résistance yéménite a réussi à détruire des avions de combat ou des plateformes radars et des dépôts d'armes.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce dimanche 2 mai 2021. Depuis une dizaine de jours, le régime israélien est exposé à des incidents d'ordre sécuritaire qui continuent de susciter l'inquiétude des dirigeants sionistes. Alors que le régime sioniste est toujours dans le choc d'être ciblé par un missile en provenance de Syrie qui a touché le centre nucléaire de Dimona, les sources d'information ont fait état des cyberattaques généralisées contre le régime de Tel Aviv à travers le monde. Selon ces sources, les mots de passe des milliers de courriels des employés de la fonction publique du régime israélien ont été publiés sur les réseaux virtuels. Parallèlement, un très vaste incendie s'est déclaré à Bazan, une raffinerie située dans l'une des régions très peuplées près de Haïfa. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces incidents sécuritaires qui touche le régime israélien et bien entendu l'incapacité de ce régime à contrer en effet ces incidents sécuritaires. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
En Israël, des incidents sécuritaires se poursuivent à une cadence étrangement régulière et ils se ressemblent. À peine 10 jours après la méga explosion au cœur de l'un des sites militaires les plus secrets d'Israël, enterré quelque part à Gush Dan, ce désormais fameux Tomer, sur quoi la presse sioniste a recherché tant bien que mal de passer l'éponge, cherchant à vendre la déflagration avec son trop gros nuage de champignons et le cratère qu'il a produit dans son sillage pour un test contrôlé de missiles Arrow 3, explosion qui, rappelons-le, a succédé de 24 heures, une fuite d'ammoniac à Haïfa et un tir de missile à 200 kg de charge près de Dimona, lequel tir a percé à la fois Dôme de fer, Fronde de David et Arrow évidemment. Un très vaste incendie s'est déclaré à Bazan, une raffinerie située dans l'une des régions les plus peuplées de la baie de Haïfa, sur une étendue de 201 hectares. Évidemment, Tel Aviv a cherché encore comme ces 10 derniers jours à étouffer l'affaire. Que se passe-t-il en Israël? L'appareil de renseignement israélien fait-il l'objet d'offensives successives qu'il n'avait même pas soupçonnées et qu'il est incapable de contrer? Jeudi soir, alors même que tout Israël se développe en état de cyber-alerte maximale, à l'approche de la journée mondiale de Rots, le 7 mai, une vaste cyberattaque a visé la société Veritas Logistique, société impliquée entre autres dans le transport maritime. Et c'est sans doute tout ce concours d'incidents inexpliqués qui a poussé le ministre israélien de renseignement, Eli Cohen, à délirer vendredi 30 avril et de brandir, faute de mieux, la menace de cette armée de l'air israélienne qui aurait des avions capables de bombarder les quatre coins du Moyen-Orient. Mais Cohen a raison de s'être emmêlé les pinceaux. Juste avant que Haïfa se mette à vivre des incidents quasi hebdomadaires et quotidiens, Gantz, ministre de la guerre, s'est inquiété lors d'une réunion d'urgence de nouvelles méthodes d'infiltration du Hezbollah. Pour arriver jusqu'à nous, ils innovent et utilisent de nouveaux modus operandi. Certains observateurs ont cru comprendre que le général sioniste parlait des attaques électroniques dont font l'objet de plus en plus fréquemment les avions et les drones israéliens depuis le ciel de la Syrie ou encore depuis l'espace aérien du Sud-Liban.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec M. Luc Michel, géopoliticien, et depuis Paris avec Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Mme Armidani, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à M. Luc Michel et puis à toute l'équipe Presse TV et tous les téléspectateurs.
Madame Idani, comme vous le savez, depuis une dizaine de jours, le régime israélien fait l'objet d'offensives successives. Alors, le missile, les drones ou encore des cyberattaques. Quel premier regard portez-vous sur ces offensives, Madame Idani?
Alors, pour moi, c'est effectivement, et c'est d'abord que je vous remercie pour votre rapport qui est assez complet. Deuxièmement, je pense que c'est effectivement l'occupant sioniste a pour un début de ce qu'il mérite, hein, puisqu'il a multiplié les escalades et puis les agressions tous azimuts dans la région, contre la Syrie, contre l'Iran, la centrale de maintenance, sur la Syrie, il a systématiquement envoyé des agressions, en fait, mais à partir du Liban, à partir de la mer, etc. Et à partir de la mer, présent les réponses, les ripostes étaient des ripostes limitées, c'est-à-dire que les missiles qu'il avait envoyés ont été complètement interceptés ou pour certains, ils ont peut-être réussi à tomber en Syrie sans faire trop de dégâts. La centrale de Natanz a redémarré 24 heures plus tard avec réchauffement de l'uranium. Du même style, mais là, effectivement, je dirais, sentie stratégique, la ligne de missiles qui a à peine 24 heures avant que le missile syrien ne parvienne jusqu'à 30 km de Dimona, que cette explosion importante la raffinerie de Haïfa, on a parlé aussi même de l'uranium du côté de Haïfa qui part dans la mer. Donc, il y a une véritable offensive stratégique, je dirais, de l'axe de la résistance, du front de la résistance. Je loue totalement et que j'applaudis des deux. Donc, effectivement, que cet état d'agression sioniste qui a usurpé les terres et qui continue d'ailleurs violence contre la population palestinienne en ces moments, en ces jours sacrés du Ramadan que des Pâques, les si bien catholiques qu'orthodoxes, ces agressions contre les gens qui viennent à main nue, mais juste pour faire par ça, et qui vient faire les messes à l'église de la Nativité à Bethléem. En fait, toutes ces agressions, en fait, cette horrible insolence et violence, en fait, dont se dote le pouvoir d'occupation israélien, mériter et mettre effectivement une riposte. Je dirais qu'il lui permet de se tenir à carreau, qu'il oblige à se tenir à être respectueux des pays voisins et des peuples, des règles des Nations Unies et surtout le respect des droits de l'homme dont tous les pays qui le soutiennent, entre autres les États-Unis, pays occidentaux de l'OTAN,
merci, Madame
se targuent à longueur de journée et qui ne font que les violer à longueur de journée. Et qui apporte à Israël, en fait, il ne fait qu'augmenter sa violence et son insolence vis-à-vis des pays voisins, tout en disant « Ah, on veut la paix », etc. Donc, moi, j'avoue, à ces réactions stratégiques et à ces réponses que je peux qualifier de stratégiques parce qu'effectivement, elles ouvrent le chemin. Une autre équation dans la région.
Merci, Madame Idani.
Une autre politique.
Merci infiniment pour ces précisions, Madame Idani. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Bruxelles pour rejoindre M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
semblable dynamique, j'ai toujours grand plaisir avec vous.
Les incidents de ces derniers jours, bien entendu, les dirigeants israéliens ont cherché par tous les moyens possibles à les étouffer. Une première question justement sur l'origine de ces incidents. Est-ce que là, ces incidents seraient l'œuvre des facteurs domestiques ou bien découleraient d'une opération d'infiltration extérieure, M. Michel?
Écoutez, Israël essaye de dissimuler cela sous des incidents domestiques ou des attaques de hackers ou des choses pareilles. Mais il y a quelque chose de réel. On parle depuis de nombreux mois de la parité stratégique entre la dans l'Israël. Comme dans les années 1980, dans l'Union soviétique, il y avait la parité stratégique entre la Russie et l'Ukraine. L'époque du pays ukrainien était popularisée par leur tour de maître. Et où l'aviation ukrainienne faisait la loi dans le ciel du Liban, dans le ciel de la Syrie, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a la montée en puissance d'abord du secteur maritime de l'Iran, il y a les capacités de nucléaire et de protection de l'Est de la résistance, en particulier de la Syrie, qui sont une réalité. Avec la piste de la Russie, il y a donc une parité stratégique pour indiquer que la neutralité pour Israël est discutée jusqu'à en cours de la part de la Russie. C'est terminé. Netanyahou a été trop loin dans l'assurance, dans des menaces qui est là, mais exclué de la vie de l'État. C'est quelque chose qui se termine. Il faut savoir arriver maintenant sur les trois coups. Israël est menacé sous le front du Liban et de la résistance palestinienne, sur le front de la Syrie, sous le front du Yémen. C'est un changement. Les médias israéliens, d'ailleurs, commencent à reconnaître la situation. Il y a 15 années, il y a eu un grand article dans le TAC en Israël qui reconnaissait qu'une guerre ne pouvait pas être menacée entre Israël et l'Iran. Et que le Liban, justement, avait une capacité militaire égale à celle des Israéliens, à leur grand surprise. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi les Américains, Paris, Londres et Berlin insistent tellement pour que l'Iran soit entrer dans les accords de Genève, vient de renégocier sur le secteur pratique et se désarmer. Le but principal, ce n'est pas une menace qui serait sur les États occidentaux, c'est évidemment une menace sur Israël. Vous savez que l'Iran sert de prétexte dans les deux sens. L'Iran sert de prétexte aux menaces en Occident, à la fois pour justifier l'agression vis-à-vis de la Russie. Vous savez que les installations de missiles de radar en Pologne ou en Roumanie, aux frontières de la Russie, sont justifiées par une menace balistique iranienne. Mais en même temps, dans l'autre sens, la sortie de la menace qui s'avienne sur les pays occidentaux, elle vise en fait à protéger l'allié israélien. On est rentré dans un nouveau cycle géopolitique. Il faut retenir cela. Le temps de la puissance et de l'arrogance israélienne est terminé. Il faut que les Israéliens eux-mêmes s'inquiètent d'une espèce de lutte contre les protections israéliennes. Suivi d'après les militaires américains, et qui dévoquent même un équipage d'Israël et des États-Unis. On sait en tout cas que l'actuelle administration Biden-Harris, elle est moins soumise à la position du lobby pro-israélien, pas complétée de Donald Trump, en particulier par l'attitude de Jacques-Michel et Netanyahou. Cela s'est terminé. Tout cela fait que Israël va être rappelé dans son rang, qui est celui d'un pays total.
Merci pour ces précisions, Monsieur Michel. Restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Edanier, donc, alors, cette parité stratégique dont parlait Monsieur Michel, bien sûr, aujourd'hui, on assiste un changement total des rapports de force dans la région, notamment entre le régime israélien, bien sûr, et les groupes de la résistance en général. Ceci étant dit, Madame Idani, alors, de quoi aujourd'hui a-t-il peur le régime de Tel Aviv? D'une prochaine guerre entre alors ce régime et les groupes de la résistance dans la région? Et si une guerre éclate, alors, dans quelle mesure, justement, les équations, les rapports de force sur le terrain, sur le plan militaire, changeront totalement?
Je crois que le régime sioniste a vraiment compris. Il a conscience du fait que les rapports de force ont coupé. Puisque quelqu'un comme l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ensemble des défenses israéliennes ont été écrasées et qu'ils ont commencé aussi à que Netanyahou est en train de mener une politique personnelle pour alors qu'il entraîne le pays dans une situation de grand danger au niveau de sa sécurité. L'ensemble, les différentes, c'est ça qui est responsable israélien réagissent et ils s'attaquent entre eux, ils s'envoient des accusations et etc. Ce qui fait que en même temps, il est clair que la société israélienne de l'intérieur est en train de s'effondrer. D'ailleurs, un des responsables avait dit va gagner un autre pays sans qu'il ne tire la moindre balle. Parce que, en fait, tout le monde va à force d'avoir peur, justement, et du fait qu'ils ne se sentent plus protégés, que les colons ne se sentent plus protégés par leur pays. Je voudrais dire quand même, ajouter cet incident qui a eu lieu sur l'effondrement l'effondrement du sol des colons qui était un énorme rassemblement religieux ou festif, disons, en fait, où il y a eu énormément des morts, des blessés, de secours possibles, etc. Donc, a augmenté de la non et que même les choses essentielles dans leur pays ne sont pas gérées ou sont mal gérées. Donc, je pense que c'est tout ce qui s'est passé, ça constitue une victoire, effectivement, pour l'ensemble, pour l'axe de la résistance, dans le sens où les colons perdent de plus en plus confiance. État a quitté, d'ailleurs il y a de plus en plus d'articles dans les journaux dans ce sens où ils disent de toute façon Israël est en voie de disparition parce que les habitants vont quitter et quittent tout du fait qu'ils ne s'en sentent pas protégés, les habitants colonisateurs. Donc ça c'est un point très très important. Un autre point important, en fait, on voit que non seulement l'axe de la résistance augmente ses forces, non seulement par les armes et les capacités, aussi les capacités sur le plan informatique, fabrication plus précise sur le plan de la portée des armes et des missiles, sur le plan d'une détermination à la riposte et une détermination à la libération de la Palestine et de tous les territoires occupés par les Israéliens. Donc, en fait, tout ceci commence effectivement, ces idées, ce sont des messages qui arrivent clairement aux oreilles des colons et qui arrivent aussi clairement aux oreilles des responsables politiques, et ce qui augmente leur peur, ce qui augmente leur panique. Et je pense que c'est en plus le changement de la situation. Trump qui soutenait les Israéliens allemands, qui, bien qu'il continue à soutenir l'Israël.
Merci, Madame Edani.
Il prend ses distances.
Merci infiniment.
Et ces dissensions entre les différents dirigeants, Netanyahu et Benny Gantz, et tous ces responsables, ça n'est pas fait pour rassurer, je dirais, la population.
Merci.
Des colons. Donc, effectivement, la peine, la peur augmente et elle laisse place, à mon sens, aussi au départ de plus en plus massif vers l'extérieur, c'est-à-dire
merci,
le retour des colons qui sont venus d'Europe et du monde entier vers leur pays d'origine.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, les récents incidents en Palestine occupée ont révélé à grand jour à quel point le régime sioniste était...
Allô?
M. Michel, est-ce que vous m'entendez?
Allô? Oui, je suis. Ah, pardon.
M. Michel, est-ce que vous m'entendez?
Je vous écoute, tout à fait.
Très bien. Alors, je disais, alors les récents incidents en Palestine occupée ont révélé en effet à grand jour à quel point le régime sioniste était vulnérable, d'où justement alors cette peur, cette grande inquiétude des dirigeants sionistes, alors à court terme, à la veille de la Journée mondiale de Rhodes, c'est à long terme, bien entendu, alors à l'hypothèse de l'éclatement d'une prochaine guerre. Ceci étant dit, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre du régime de Tel Aviv face notamment à l'éclatement d'une prochaine guerre?
Écoutez, elles sont très faibles parce que le changement de la transition stratégique au Proche-Orient avec le rétablissement de la parité stratégique entre la résistance et Israël, il s'accompagne, il se passe dans une crise profonde de la politique israélienne. Le Likoud est en recul et la toute-puissance au cours de la dernière décennie du Likoud qui a conduit à la likoudisation d'ailleurs du mouvement sioniste mondial et des lobbies pro-israéliens aux États-Unis et en France, aujourd'hui le Likoud est en recul. La toute-puissance de Netanyahu n'existe plus, il a des concurrents sur sa droite, notamment en France, notamment les dirigeants de la droite religieuse, et en plus de cela, il est fragilisé par les poursuites judiciaires, les appels de corruption, etc. Il y a d'ailleurs un risque qui existe et qui est souligné par le reste d'ailleurs de la classe politique et notamment les médias israéliens comme le Times of Israel, c'est que la solution trouvée par Netanyahu pour se bâtir au pouvoir, c'est précisément l'hypothèse d'une grande guerre qui va susciter patriotisme des députés israéliens. Ça vous explique d'ailleurs, cette politique jusqu'au boutiste, c'est un peu une politique qui commande aux États-Unis en faisant référence à la bataille d'Afrique en 1947. C'est un peu de combat, c'est l'attaque de la centrale nucléaire iranienne de la France, et ce sont les différents frappes qui sont dessus, notamment en Syrie. Tout cela fait que l'Israël est dans une position fragilisée et que bien au contraire de ce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité nationale qui a au contraire la culture de cette unité. Et quand vous suivez de vos mots la politique israélienne, il y a eu notamment aussi une élection qui se dit. Il y a non seulement plus de majorité qui se dégage, mais en fait, la politique israélienne, ça ressemble à un grand nombre de pays nationalistes qui sont prêts à tout pour se dévorer pour le pouvoir. C'est la base de la vie d'Israël. Où la toute-puissance israélienne domine la fonction, c'est terminé.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Ici le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré « La force Quds est l'acteur le plus imposant en Asie de l'Ouest, où elle empêche que la diplomatie tombe en léthargie ». C'est cette force qui a permis la réalisation de notre politique étrangère. Les Américains veulent placer sous leur drapeau notre politique étrangère. Ils s'offusquent quand l'Iran établit des liens avec la Chine ou avec la Russie. Notre politique indépendante est décidée au-delà d'un simple ministère, a-t-il souligné. À l'occasion du mois béni de Ramadan, le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, s'est adressé à la nation dans le cadre d'un important discours télévisé. Le guide suprême de la révolution islamique a prononcé un discours télévisé ce dimanche soir à l'occasion des nuits de la valeur et le mois béni de Ramadan. Il a rendu hommage aux grandes vertus du premier imam des chiites, le vénéré imam Ali Beni soit-il. Dans une autre partie de son discours, l'honorable Ayatollah Khamenei a également rendu hommage à la mémoire du général martyr Qassem Soleimani, tombé en martyr par les soldats terroristes des États-Unis en Irak, sur la même voie que le vénéré imam Ali. Il a rendu hommage au martyr Murtaza Motahari, dont la date du martyr, le 2 mai 1979, a été désignée en Iran pour journée des enseignants. Il a demandé aux acteurs de l'éducation nationale, aux enseignants et aux professeurs de prendre pour modèle les idées et les pensées du martyr Motahari. Il a salué ensuite le développement spectaculaire de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur après la victoire de la révolution islamique de 1979. Depuis plus d'un an, en raison de la crise sanitaire, l'enseignement à distance s'est imposé aux cadres enseignants et aux élèves, dont il a salué le courage et la détermination. Dans la dernière partie de son discours, il n'a pas manqué de rendre hommage à la classe ouvrière iranienne à l'occasion de la fête du travail, appelant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie des ouvriers, d'autant plus que la nouvelle politique repose sur le développement de la production nationale dans tous les secteurs. C'est le seul moyen de neutraliser les sanctions étrangères, a-t-il souligné. À l'approche des élections présidentielles en Iran, le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré que les suffrages universels sont les symboles de la volonté et de la puissance du peuple et du rôle qu'ils jouent dans la détermination de l'avenir du pays. Il a qualifié d'erreur les actions de ceux qui cherchent à décevoir les électeurs et à les encourager à ne pas de se rendre aux urnes. Et certains accusent le pays de mal organiser les élections quand leurs candidats favoris perdent et soutiennent les organisateurs quand leurs candidats gagnent, a-t-il ajouté. L'honorable Ayatollah Khamenei a exprimé ensuite ses regrets quant aux déclarations de certains responsables politiques du pays en soulignant que des expressions d'opinion personnelle au sujet de la force Quds et de son commandant, le martyr Qassem Soleimani, ne doivent pas permettre aux ennemis extérieurs du pays d'essayer d'en profiter, car il n'y a pas d'écart entre les organes de défense et le système diplomatique de la République islamique d'Iran. Nos ennemis en Occident sont furieux contre la force Quds en raison des services qu'elle a rendus aux intérêts nationaux de l'Iran. Ils s'opposent au développement des relations de notre pays avec la Chine. En Iran, comme dans d'autres pays du monde, le ministère des Affaires étrangères ne détermine pas les lignes de la politique extérieure du pays, mais il les exécute, car d'autres instances, dont le Conseil suprême de la sécurité nationale, définissent les orientations de notre politique. Politique étrangère, a souligné encore le guide suprême de la révolution islamique. L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré « La force Quds est l'acteur le plus imposant en Asie de l'Ouest, où elle empêche que la diplomatie tombe en léthargie. C'est cette force qui a permis la réalisation de notre politique étrangère. » Les Américains veulent placer sous leur drapeau notre politique étrangère. Ils s'offusquent quand l'Iran établit des liens avec la Chine ou avec la Russie. Notre politique est indépendante et décidée au-delà d'un simple ministère, a-t-il souligné. La résistance yéménite accuse l'émissaire américain de commercialiser la guerre contre le Yémen. Le membre du Conseil politique suprême au Yémen, Mohammad Ali Al-Houssi, a critiqué la réunion de l'envoyé spécial américain au Yémen, Tim Lenderking, l'accusant d'avoir contenu de fausses accusations et de vouloir commercialiser la guerre contre le Yémen à nouveau. Dans une interview accordée à l'agence russe Sputnik, Al-Houssi a déclaré en ce qui concerne les propos de Lenderking, selon lesquels son pays a besoin de plus d'aide internationale pour arrêter l'envoi d'armes au Yémen. Ceci est la preuve qu'il n'est pas venu en tant que messager de paix, mais pour transmettre des informations erronées destinées à commercialiser à nouveau la guerre contre les Yéménites. Si Lenderking voulait la paix, il aurait présenté un plan de paix fondé sur des faits clairs, sur la base des tendances réelles sur lesquelles les Yéménites pourraient s'entendre avec les pays de l'agression, où ils discuteraient des plans qui ont été présentés par nous, par l'intermédiaire de médiateurs omanais ou par l'intermédiaire du directeur du Programme alimentaire mondial, a-t-il souligné encore. Dans un article rédigé pour Al-Mayadin, Abbas al-Zayn a abordé les objectifs du régime israélien en se focalisant sur le dossier de l'Irak et les plans de Tel Aviv destinés à affaiblir, à démembrer l'Irak. Cela fait quelques années que le régime occupant israélien voit en Irak une nouvelle menace. Cette hypothèse est exposée dans un rapport du Centre des études sur la sécurité d'Israël rendu public l'année dernière. Le rapport prévoit que le front intérieur israélien sera pris pour cible de milliers de missiles, dont des missiles de haute précision, d'obus de mortiers, de drones d'assaut depuis le Liban, la Syrie, l'ouest de l'Irak et à Gaza, indique l'article. Abbas al-Zayn continue. Le Centre des études sur la sécurité d'Israël a ensuite simulé cette guerre dans un possible scénario. Elle éclaterait par le tir de 6 missiles en provenance de l'ouest de l'Irak vers Tel Aviv. La formation de Hashd al-Shabi, dont les groupes affiliés agissent dans le cadre de la stratégie de l'axe de la résistance, est devenue une grande source d'inquiétude pour le régime occupant israélien. En juin 2020, le Centre des études sur la sécurité d'Israël a mis en garde contre le retrait des Américains de l'Irak qui pourrait mettre en danger les intérêts stratégiques du régime sioniste. Grâce à ces groupes de résistance, l'Irak s'est transformé en un pionnier dans la lutte contre l'hégémonie des États-Unis, ce qui place Israël parmi ses objectifs potentiels, surtout pour les trois raisons suivantes. Premièrement, le régime israélien est en contact direct avec l'hégémonie américaine. Deuxièmement, la résistance irakienne place la cause palestinienne parmi les priorités. Et troisièmement, la résistance irakienne est étroitement liée à d'autres parties de l'axe de la résistance. Abbas al-Ain explique que l'Irak et les groupes de résistance font face à des plans ambitieux d'Israël qui se concentrent dans le secteur pétrolier. Le régime occupant a besoin urgent que le oléoduc Kirkouk Haïfa soit remis en service. Les plans pétroliers ambitieux d'Israël se laissent trahir à travers des rapports des médias. Israël achète du pétrole irakien à la région du Kurdistan. D'après ce rapport, le pétrole de la région du Kurdistan est exporté illégalement via un oléoduc indépendant vers le port de Zihan en Turquie, d'où il sera transporté au port de Haïfa et à Ashkelon par des camions et citernes. le recours du régime israélien à des raccourcis pour piller le pétrole irakien met en évidence les problèmes qui vont souffrir l'Irak, les problèmes qui ont été aggravés par les attaques des terroristes de Daesh contre certaines villes irakiennes. Bien que Bagdad se soit opposé au projet israélien de l'oléoduc Kirkuk Haïfa, deux des éléments importants ont nourri les espoirs de Tel Aviv à ce propos. L'agression des États-Unis en 2003 et la montée en puissance de Daesh en 2014. Abbas al-Zayn a écrit « Pendant les deux dernières décennies, Israël n'a lésiné sur aucun moyen pour démembrer l'Irak en des cantons ethniques et tribaux et confessionnels dans le cadre de ses objectifs. »